Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture banette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
René Château présente Maniac. La terreur règne sur New York. Chaque jour, des femmes meurent, sauvagement assassinées.
Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au réalisateur William Lustig. Né le 1er février 1955 à New York, dans le Bronx, un réalisateur culte et accessoirement neveu de Jack Raging Bull LaMotta. Eh oui, haha. Vous pourrez écouter dans la deuxième partie de l'émission quelques mots du metteur en scène de ce film pour enfants magique qu'est Maniac. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Daniel Cohen pour son aide sur cette émission. Pour causer Bill Lustig, je suis accompagné de deux maniaques dans leur genre aussi, des types un peu particuliers. Tout d'abord, il y a celui que je vais surnommer l'homme mystère, mais dont le vrai nom est John Ferrer. On va tout de suite révéler son identité, un libraire fou qui vous invite à le rejoindre du côté de la librairie des signes indépendante et compiénoise. Plus d'infos sur librairiedessignes.com. Hi John.
Bonjour à tous.
Également à nos côtés, le fameux loup-garou Picard. Fameux surtout à Amiens, lorsque chaque nuit de pleine lune, il s'en va à rédiger de sanglantes critiques pour le compte de Vidéotopsie, hein, vidéotopsie.blogspot.fr pour plus d'informations, et culturopoint.com, je veux bien sûr parler de l'ami Thomas Roland. Salut Thomas.
Salut GG, salut John, et salut à toutes.
Alors les amis, nous allons donc parler aujourd'hui de William Lustig. Alors... Moi, William Lustig, je ne sais pas si vous savez, mais il a démarré sa filmographie quand même par des petits films de coquins, le petit William Lustig. Et il avait à l'époque le pseudonyme de Billy Bag. Et oui, voilà, ces petites révélations que je vous fais là, peut-être, les amis. Bon, alors comment on a tous découvert William Lustig? Je pense que, comme on a tous à peu près malheureusement le même âge, on aimerait bien être plus jeune, et que nous étions des jeunes hommes, des jeunes garçons, plutôt en 1982, lorsqu'une cinquième VHS a débarqué dans la mythique collection des films que vous ne verrez jamais à la télévision, en fait on a fini par tous les voir, et son titre c'était Maniac. Alors l'attrait des amateurs de cinéma bis pour cette série, éditée par René Château, provoqué une ruée dans les vidéoclubs. Et ceci bien que Lustig soit un parfait inconnu. La surprise est de taille lorsque l'on visionne Macabre. Et oui, qu'est-ce qu'on voit ? On suit les errances d'un psychopathe campé par un Joe Spinell habité très glauque. Le métrage regorge de morceaux de bravoure, dont la poursuite d'une infirmière dans le métro, une scène réalisée en hommage au maestro Dario Argento. Les amateurs de polissonnerie reconnaissent dans le rôle d'une collègue de cette soignante, Sharon Mitchell. Eh oui, Sharon Mitchell, l'actrice X à la filmographie plus longue que la taille en millimètres du chibre de John Holmes, parce qu'elle a quand même joué dans plus de 450 films porno, est une vieille connaissance de Lustig. Effectivement, elle tient le rôle titre de son premier long métrage, signé 3 ans plus tôt sous le sobriquet de Billy Bag, The Violation of Claudia, tout un programme. Alors, du coup, je vais en profiter pour faire un flashback dans les années 70. Dans les années 70, William Lustig, pur produit du Bronx, se construit une cinéphilie de barge, en fait, en écumant les salles mythiques de la 42e rue. Il y est même ouvreur durant les week-ends. Passionné de films de genre, après un court passage par l'Université de New York en section cinéma, il écume les plateaux de tournage et occupe divers postes. Il accepte tous les boulots sur tout type de production, du hardcore au cinoche mainstream. Par exemple, il apprend le métier de monteur en étant l'assistant du chevronné Bernard Gribble sur Un justicier dans la ville de Michael Winner en 1974. En 1977, âgé de 22 ans, il écrit, produit, monte et réalise son premier film « The Violation of Claudia ». Le récit s'inspire de « Belle de jour » de Buñuel, dans lequel Catherine Deneuve interprète la virginale Séverine qui rêve de luxure dès que son mari parfait passe la porte. La Séverine de Buñuel est ici remplacée par Claudia, campée par Sharon Mitchell. Elle est une grande bourgeoise qui s'ennuie auprès d'un mari trop souvent absent. Sa libido non satisfaite la pousse vers diverses expérimentations sexuelles. Plus particulièrement auprès de son professeur de tennis, ce bon vieux Jamie Gillis, mort en 2010, amateur de libertinage. L'acteur au plus de 400 films interprète ici Kip, un pervers qui, dans un lupanar, initie la diaphane Sharon à différents jeux érotiques. Celle-ci ne pourra toutefois aller jusqu'à coucher avec un travelo. Eh oui, pourtant, elle en rêvait. Elle rentre promptement à son domicile pour y découvrir effaré son conjoint en train de sodomiser. Qui, je vous le donne en mille ? Jamie Gillis ! Eh oui ! Voilà, The Violation of Claudia se conclut par un gros plan sur le visage tétanisé de cette dernière. Alors, le terme « violation » désignant en langue anglaise le fait de violer l'intimité d'une personne, le titre du film est ambivalent. Si le spectateur viole l'intimité de la cristalline Claudia, allant jusqu'à pénétrer ses propres fantasmes, que dire de son mari ? Si ce n'est qu'il l'outrage bien plus cruellement en forniquant avec un autre homme, Kip. Ce dernier s'avérant être l'amant des deux conjoints. La découverte est très brutale pour Claudia, d'où le gros plan final. Ce twist troublant constitue la seule bonne idée du scénario quand même de ce boulard plutôt pépère, il faut bien le dire. Mise en scène donc par Lustig, même si on voit déjà que Lustig a quelques velléités. Il y a quelques belles scènes. Par exemple, Lustig joue avec les couleurs lorsqu'au début du film, on voit Claudia nue dans un canapé blanc, caressée par 3 infirmières également en blanc, avec une caméra qui tournoie au-dessus, qui s'élève avant que le plan ne s'arrête de manière très cut. C'est ce qu'on appelle donc un rêve humide. Et puis Lustig est déjà un peu dans la provoque, puisque dans les 3 nurses, il fait apparaître pour la première fois à l'écran Long Jane Silver, alors l'une des plus atypiques actrice porno de son époque, puisqu'elle est amputée au niveau du genou gauche. Particularité non utilisée par Lustig, qui la laisse habiller, mais qui fera d'elle en fait une star pendant un moment du porno aux États-Unis. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lustig, il se fait la main, si j'ose dire, sur ce film pornographique, dans lequel on sent qu'il hésite entre des moments plus glauques, un petit peu d'humour, il a fait ensuite un autre film porno, Hot Honey, donc que je n'ai pas vu, mais Thomas, peut-être l'as-tu vu ?
Non, je ne l'ai pas vu, non. Je suis entré en possession de ce film, mais je n'ai pas regardé ses premières œuvres, ce cher monsieur.
Voilà, bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait la main sur ses premiers films avant de basculer, de faire basculer sa filmographie et de se trouver, parce que débuter dans le porno, c'est quelque chose que faisaient beaucoup de réalisateurs à l'époque. On l'a vu, Wes Craven est passé par là, par exemple. Enfin, il n'est pas tout seul. Abel Ferrara est passé par là. Beaucoup ont commencé par faire des pornos. C'était ce qui avait le plus facile à se faire produire à l'époque. Et puis, à l'époque, on tournait encore quand même au moins en 16 pour gonfler le film après, ou en Super 16. Et puis, sinon, on tournait des fois même en 35, ça arrivait. Et puis après, Lustig, il va passer, comment dire, à la vitesse supérieure, hein, puisque eh ben, il va travailler sur... Ah, il fait plein de choses entre deux, quand même, je voulais le dire. Il fait, entre autres, les effets spéciaux d'un film bien glauque d'Alfred Sol, qui s'appelle Alice Sweet Alice. Qui est un film vraiment très très étrange aussi pour ceux qui l'ont vu. Mais surtout, surtout eh bien, on, en 1980, c'est maniaque, mon cher John. Écoutez Culture Prohibée.
Donc oui, Maniac que j'avais revu pour... que j'avais vu surtout, parce que j'avais vu pour cette émission, j'avais jamais vu auparavant. Donc Maniac, c'est simple, hein, l'histoire d'un mec un peu dérangé. Je suis quand même.
Un petit peu.
Tu peux déranger.
Un petit peu. Un peu beaucoup, ouais.
Un peu beaucoup, hein, qui apparemment avait quelques problèmes avec sa maman, et qui va comme ça dans un New York bien crade, comme on les aime, se faire quelques nanas en les tuant. Je sais pas si j'ai bien résumé. Bah, c'est ce que j'en ai.
En les scalpant aussi. Ce qui est quand même quelque chose d'assez dégueulasse. Hein.
Oui, en les scalpant et tout ça. Alors moi, ce que j'ai bien aimé vraiment dans tout ça, c'est surtout son appartement. Parce que son appartement, apparemment, c'est vraiment son âme. On est vraiment dans sa tête, dans son appartement. C'est-à-dire que c'est peut-être l'un des seuls endroits où il va se retrouver avec lui-même, où il va se retrouver avec toutes ses peurs, avec toutes ses obsessions. Alors que dans le New York, et là, il y a quand même quelques scènes hallucinantes, parce qu'on voit toujours cet homme coiffé d'un bonnet évoluant dans un New York nocturne comme ça. Alors qu'il y a des fois des scènes où il est très bien habillé, où on se dit même qu'on ne pourrait pas lui donner le bon Dieu sans confession, mais on pourrait parler avec lui, on ne le sent pas glauque. Donc c'est vraiment quelque chose dans la tête comme ça qui se passe. Et moi, j'ai toujours aimé ces scènes où il est dans son appartement, où il retrouve toutes ses peurs, toutes ses obsessions comme ça. Et il y a cette fameuse scène aussi, un moment où il est avec une dame et est avec son mari dans la voiture, et lui est comme ça un peu à l'affût. Et à un moment, il saute sur le capot, tout ça dans un ralenti qui fait étrangement penser d'ailleurs à Peckinpah, parce qu'il y a à ce moment-là une explosion de violence, parce qu'il tire, je crois, la chevrotine dans l'homme. Et là, boum, il y a ces excès de violence que moi j'adorais chez Peckinpah et que je retrouve là chez Lustig. Et puis surtout, c'est Lustig, c'est le New Yorkais, c'est le mec qui connaît vraiment bien, à mon avis, tous les blocs du Bronx, qui a connu toute cette période des cinémas de l'avenue 42 et qui a, à mon avis, un sacré sens du glauque, comme devait l'être New York à cette époque. Voilà.
Oui, comme tu le disais aussi, c'est aussi un témoignage sur ce qu'était le New York de l'époque, qui a été depuis complètement nettoyé, d'ailleurs, hein, par surtout Rudolph Giuliani. Et puis, c'est la performance de Joe Spinell aussi, hein, qui est marquante. Je pense que Thomas, c'est pareil, c'est un film qui t'a marqué énormément, Maniac.
Effectivement, c'est un film qui marque beaucoup, notamment cette scène à laquelle John fait référence, c'est-à-dire cet homme Savini qui joue le bonhomme dans la bagnole hein, et qui se fait exploser la tête à coups de fusil de chasse. Et c'est vrai que c'est un plan qui marque. J'ai jamais revu ça dans un autre film.
Hein. Eh bien justement, moi j'avais aussi, quand j'avais vu ce plan-là, je me suis dit, sur le Michael Mann, notamment Miami Vice, quand il y a le premier échange entre les gangsters, les Russes, à un moment, la caméra se positionne aussi derrière le mec qui est dans la voiture et on voit un bras se détacher comme ça. Et ben, cette explosion de violence, c'était déjà Lustig qui la faisait comme ça. Enfin, après, je ne sais pas si on peut rapprocher les deux. Mais en termes de plan, c'est un peu le même. Et on a toujours cette explosion de violence qui fait cramer les membres.
Ouais, enfin, là, c'est quand même la tête qui explose.
Là, c'est vrai que c'est
la tête. Une effusion d'hémoglobine qui est quand même assez marquante.
Oui.
Et c'est surtout un film qui est à cheval, juste un petit peu avant l'explosion du slasher. Hein. Il y a Halloween, c'est 77 ou 78. Après, le premier Vendredi 13, c'est 81, je crois, 81, 82. Et donc, en fait, c'est un film qu'on pourrait rapprocher du slasher. Mais ce n'est pas un slasher, vu qu'on est complètement du point de vue du tueur et qu'on est dans sa tête, comme tu dis, quand on est dans son appartement, on est dans sa tête. Et on aimerait vraiment pas être dans ses pompes, quoi. Parce qu'en fait, le mec, il est pathétique. Il est malheureux, en fait. C'est un mec malheureux. Il tue des putes parce que certainement, il est impuissant. On pense qu'il est impuissant, qu'il n'a pas réglé un problème avec sa mère. Mmh. Et il voit dans chaque prostituée qu'il va voir, chaque femme qu'il approche, sa mère à qui il veut faire subir tous les outrages. Mais ce mec-là, c'est vraiment pathétique. C'est pas un film qui juge le personnage en disant regardez ce salaud, etc. On est vraiment on approche vraiment les petites gens, quoi, les petites gens de la 42e rue, quoi.
Mais on compatit par rapport à ça.
Oui, complètement. Et c'est le film pour ça met extrêmement mal à l'aise, extrêmement malsain.
Et c'est extrêmement sensoriel aussi. On arrive à sentir limite même les odeurs des égouts. C'est-à-dire que c'est un truc où il a vraiment réussi à donner une patine au film qui est énorme, puisqu'on a l'impression de sentir les gouttes de pluie, la crasse, la fumée. On se dit même que dans sa chambre, avec tous ces mannequins qui traînent, ça ne doit pas sentir franchement bon. Et puis, vraiment, cette chambre, moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ça. On fait le chemin de sa tête dans cette chambre-là.
C'est Joe Spinell quand même aussi qui est extraordinaire. Hein. C'est le rôle de sa vie. Lui, c'est plutôt un second couteau qu'on remarque pour sa sale gueule, hein, qu'on voit par exemple dans Cruising, qu'on voit en Flic pervers, qu'on voit dans Brubaker aussi, en gardien de prison, particulièrement pervers. Là, il trouve aussi le rôle de sa vie. Puis, je voulais rajouter aussi que c'est un film sensoriel. C'est aussi un film plastiquement quand même. C'est une série B, mais super bien réussi, quoi. Vachement travaillé.
C'est très maîtrisé.
Voilà, c'est hyper maîtrisé. La scène de poursuite dans le métro, au niveau de la mise en scène, c'est excellent.
C'est très maîtrisé. Et puis surtout, il y a aussi cette musique de Jay Chataway qui travaille beaucoup avec le synthétiseur. Et là, il y a du synthétiseur, mais aussi il y a de la basse. On entend de la basse qui, comme ça, de temps en temps, qui donne vraiment un aspect très glauque au film. Et surtout, il y a ce petit côté que Jay Chataway aime bien, qu'il utilise beaucoup dans plusieurs films, notamment dans Maniac Cop 1 et 2, etc. C'est ce petit côté boîte à musique qui rend encore le film encore plus malséant, quoi.
Oui.
Ce petit côté boîte à musique avec une petite flûte, c'est un instrument que Jay Chataway aime bien, la flûte, et qui rend le film encore plus malsain, le personnage plus pathétique.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial William Lustig.
Thank you.
c'est un film tellement glauque, tellement incroyable qu'il marque. Que celui qui le voit reste définitivement marqué. Il fait partie de ces films comme Schizophrénia de Gérald Kargle, par exemple, qui sont des films complètement traumatisants. Alors qu'on ne peut pas oublier. Voilà, on ne peut pas oublier.
On ne peut pas oublier, oui.
Et par contre, je voulais dire un truc, c'est que ce qui est intéressant aussi, parce que c'est des choses qu'on reverra après dans son cinéma, tout ça, c'est vraiment un film placé sous le signe de la pulsion scopique. C'est-à-dire que ça démarre par un plan d'une longue vue, voilà, donc de voyeurisme, la pulsion scopique, et puis ça va jusqu'au bout du délire, parce qu'après, il y a ce personnage de photographe aussi. Mmh. Voilà. Et alors, c'est l'une des plus belles femmes du monde de tous les temps, c'est Caroline Munro, c'est pas une des plus grandes actrices. Par contre, ça, c'est vrai que c'est, certains passages avec elle tombent un peu à plat, mais en même temps, comme Thomas, tu te disais, ça renforce du coup l'empathie qu'on peut avoir pour Joe Spinell. Parce qu'on le voit maladroit, on voit qu'il a du mal. Il aimerait tellement que cette femme, si magnifique, si belle, si forte aussi, c'est une femme forte, c'est une femme qui vit de son métier de photographe, tout ça. Il aimerait tellement pouvoir avoir une relation avec elle et tout ça. Et ça, c'est montré quand même, c'est assez intelligent. Et je trouve que le film, en fait, est plutôt... plutôt bien foutu, plutôt intelligent en fin de compte. Hein.
Et en plus, c'est le seul moment où il ne met pas son habitueur de rôdeur de nuit. C'est-à-dire que c'est le seul moment où il arrive sur un trois pièces complet avec un look qui convient vraiment bien à la séance de photos à laquelle il participe ou quoi que ce soit. Limite, on dirait un producteur. Alors que quand même, dans les premières séances, c'est un bonnet, c'est une sorte de blouson, on dirait qu'il met son habitueur. Alors que là, on voit un Joe Spinell qui est beaucoup plus détendu et, comme tu disais, limite avec quelques fissures, on sent que c'est fragile, quoi.
On ne sait pas s'il feint ou si il a des moments de lucidité, en fait.
On ne sait pas s'il est psychotique ou psychopathe. Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis aussi... Hein, après, on va un peu avancer dans la filmographie de Lustig, parce que là, c'est ses meilleures années. Hein. Le début, c'est vraiment ses meilleures années. Mais ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, il met son habit de tueur. Effectivement, c'est comme s'il allait au boulot. Il prépare ses outils, tout ça, quand même, avant d'aller tuer. C'est quelque chose qu'on voit. Donc, on peut pas dire que... c'est pour ça que je le vois plus comme un psychopathe que comme un psychotique, parce qu'on peut pas dire... qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il prépare tout avant d'y aller, tranquillement, ses armes et tout ça, puis il prend sa caisse à outils, il y va.
Ouais, mais après, il est malade.
Oui.
Il disait un truc du style, tu m'as obligé à le faire, j'aurais pas dû sortir, ah là là, j'aurais pas dû le faire.
Ah, mais il y a un rapport avec la mère qui est...
C'est aussi l'aspect un peu loupé du film. C'est-à-dire que c'est ce qui fait l'aspect série B, mais l'aspect psychanalytique est un peu loupé. Même dans le remake de Calhoun, c'est un peu loupé aussi. Du coup, ça tombe un peu à plat tout l'aspect psychanalytique. Est-ce qu'on en avait besoin? Je sais pas. Pourtant, le remake de Calhoun est bien aussi, hein, parce qu'il y a un vrai point de vue de mise en scène et tout. C'est vachement intéressant. Alors après, par contre, moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais très jeune. Ça a marché hein, sur moi, hein, l'aspect psychanalytique et tout, j'étais à fond, hein, voilà, je trouvais ça a marché. Bon, depuis, j'ai vu beaucoup de films, donc on peut dire que c'est un peu maladroit. En même temps, c'est aussi dans l'esprit série B du film, voilà, où il faut bien justifier ce comportement qu'on va dire malsain, pour employer un euphémisme quand même, quoi.
Voilà. Ouais, mais tu vois, moi, c'est vraiment Lustig, j'étais vraiment sûr et certain, sans d'ailleurs jamais avoir vu grand-chose de lui, qu'on avait là à faire un bon artisan du bis, et puis c'est tout. Maniac, c'est... Pour moi, c'est pas du bis. C'est un vrai film, une vraie proposition. C'est au niveau des chiens de paille, c'est au niveau de... Enfin, je sais pas, c'est un truc, moi, comme tu dis si bien, ça marque.
Alors, autre film qu'on peut considérer... pour moi, c'est un maître de la série B, hein, voilà, plus qu'un réalisateur bis. Mais autre film qu'on peut considérer comme un très bon film aussi, c'est son suivant, Vigilante.
J'aime beaucoup.
Sacré film, hein. Peut-être Thomas, tu vas nous en parler un petit peu.
Ah, Vigilante avec Robert Forster et Fred Williamson. Donc Robert Forster campe un père de famille bien tranquille et sa femme a une petite altercation avec 3-4 voyous à une station service et les voyous ne comptent pas en rester là. Ils vont chez elle, ils retrouvent sa maison, ils vont chez elle. Alors elle, il la viole, il la bat et le gamin, il passe carrément au fusil à pompe. Hein. Le film va très loin, quoi. Et donc Robert Forster, évidemment, il n'est pas content et il veut se venger. Seulement, Vigilante, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas vraiment un film d'action. C'est, on va dire que c'est plutôt une sorte de western, un western urbain. Et finalement, il n'y a pas tant d'action que ça dans le film. C'est une mise en scène assez sèche. Il y a une véritable écriture, je trouve. Il y a une mise en scène assez sèche. Il y a très peu de musique. Et quand il y a de la musique, c'est Jay Chataway qui a fait un super thème, très western. Et c'est un film que je trouve vraiment très malin. Ouais. D'ailleurs, William Lustig, dans le commentaire audio du DVD, il est hilar du début à la fin. Il nous explique qu'en fait, il a voulu manipuler le spectateur, et parce que le film ne présente quasiment que des clichés populistes. C'est-à-dire, la justice est corrompue et laxiste, les avocats, ils s'en foutent, les voyous, ils ont le droit de tout, etc. Et les flics, ils sont dépassés par tout ce qui arrive. Ah, mais c'est un film qui, moi, en le revoyant, j'étais étonné par sa mise en scène. Parce que quand on voit Maniac à la rigueur, quelque part, elle se rapproche un peu, mais parce que sa mise en scène qui est très sèche, très moderne, et qu'on ne retrouve pas de nos jours, quoi. D'ailleurs, un film comme ça aujourd'hui, c'est, pour moi, je pense que c'est impossible à faire.
Je pense que c'est la réponse.
C'est mon juge et mon jury.
Il n'y a qu'une alternative. C'est le temps de prendre un stand. Parce que le temps est running out. You're not safe anymore. Their numbers are growing. And you must wage a war to eliminate the problem. Yourself. Vigilante.
Écoutez Culture Prohibée. We'll be right back.
Après, sur Vigilante, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un discours... Alors, c'est pas dans l'air du temps, quand même, à l'époque. À l'époque, on est dans des discours de l'autodéfense. C'est plutôt bien vu, en fin de compte. Il y a une sorte de... Voilà, de presque de virilisme. Hein. Et là, lui... Il rentre dans une milice d'autodéfense, ce que tu dis pas. Parce qu'au départ, départ, il prend la voie judiciaire, tout ça, il y va. Puis comme tu dis, les clichés s'enfilant comme des perles, bien sûr, la justice, truc complètement improbable. Hein, ils ont flingué un gamin à bout portant et tout. La justice va évidemment pas condamner les mecs, ouais, tout ça et tout. Voilà.
Le juge justement qui est incarné par Joe Spinell, lui est carrément corrompu, se fait payer des pots de vin par les voyous et il relâche tout le monde. C'est un salaud, quoi.
Voilà, c'est un salaud, un immonde méchant. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans une milice qui est dirigée par Fred Williamson, hein, en gros. Hein. C'est le plaisir aussi de découvrir en Big Fred, quoi, de le voir, là. Putain, la vache, à l'époque, il avait encore la forme, le bétail. Hein. Un monstre physique. Et ils sont là. Et en fait, tu aperçois que ces mecs, c'est un ramassis de tarés, quoi. Cette milice, c'est des tarés. Et ça devient un film de gang contre gang. Ça devient un film de gang. C'est vachement bien vu, en fait. C'est comme tu le dis, hein, c'est une sorte de parodie de ces films-là. Mais le type qui a pas de cerveau, il va regarder ça en le prenant au premier degré. Et puis celui qui réfléchit un peu sur le film, il s'aperçoit que c'est un film beaucoup plus malin que son postulat de départ. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est un des meilleurs films de Vigilante. D'abord, il s'appelle Vigilante. Ben, c'est presque un peu le film presque ultime sur le genre, quoi. Et comme tu le dis, Thomas, d'une intelligence assez sidérante, quand même, hein, pour une petite série B comme ça sortie de nulle part, qui a pas eu une exploitation gigantesque à l'époque. C'est quand même le haut du panier.
Et qui a une maîtrise technique incroyable. Le film, superbe cinémascope, encore une mise en scène très moderne, quoi. À un moment, il y a une poursuite à pied entre Fred Williamson et puis un pervers. Je sais plus ce qu'il a fait. C'est un vendeur de drogue et puis ils essayent de savoir qui est derrière ce marché-là. Il y a une poursuite à pied qui est quand même bien foutue, quoi, qui est bien haletante. Non, c'est vraiment... En le revoyant, je me dis quand même, c'est un putain de bon film, quoi.
When a cop turns killer, you have the right to remain silent forever. Maniac Cop.
Alors il va enchaîner, il va faire une trilogie. Une trilogie qui est quand même assez culte. Alors, on va mettre de côté le 3, puisque le 3, on sait que il n'a pas été réalisé intégralement par Lustig. Il y a eu des difficultés de production. Ça ne s'est pas bien passé. Mais Maniac Cop, quoi. Maniac Cop 1 et 2, qui sont quand même des séries B monumentales. Hein. C'est quand même assez énorme. Avec, en plus, dans le casting du premier Maniac Cop, deux acteurs, un qui est mythique, en tout cas, dans la série B américaine, c'est Bruce Campbell, hein, à la base... H dans la série des Evil Dead, et puis Lorraine Landon qui a une petite carrière assez sympathique dans la série B, dans le bis aux États-Unis. Elle a commencé dans la série B, elle a plutôt fini dans le bis en fait. Ça arrive à beaucoup d'acteurs. L'histoire est assez simple, hein. C'est l'histoire en fait d'un flic qui est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas fait. Hein. C'est Bruce Campbell. Et il va se mettre à pourchasser le tueur et il va s'apercevoir qu'en fait ce tueur c'est une sorte de super flic alors qu'il est habillé effectivement comme un keuf, quoi. Sauf que c'est plutôt un flic revenu d'entre les morts et qui accomplit une vengeance assez phénoménale et qui n'hésite pas, ça défouraille, ça charcle. Ça tape dur quand même, Maniac Cop. Hein.
Ah ouais, non, ça tape dur. Alors moi, je l'ai vu très très rare, pareil, j'avais jamais vu ce film-là aussi. Écoute, ça m'a bien étonné. Je suis quand même resté sur Maniac, mais ce film-là, avec toute cette aura fantastique qui teinte le film, m'a bien surpris.
Effectivement, moi j'aime beaucoup Maniac Cop. Je trouve que le film, il se tient vraiment pendant une heure. Mais après, je trouve que la dernière demi-heure, on sent vraiment qu'on est dans le bis, dans la série B. Je trouve qu'il tient plus trop son scénario et ça part un peu dans n'importe quoi. Mais effectivement, on peut aussi voir un peu une critique des dérives de la police, hein, des bavures policières. Et il y a un truc, c'est à partir de Maniac Cop 2, on peut commencer à dessiner quelque chose à la filmographie de Lustig. C'est qu'en fait, il y a un thème récurrent, c'est le thème de la vengeance. le personnage de Joe Spinell dans Maniac, il veut se venger de sa mère. Dans Vigilante, Robert Forster veut se venger des salauds qui ont tué son gamin et violenté sa femme. Et dans Maniac Cop, c'est un flic qui a été injustement accusé par la ville, par les hautes instances de la ville, et qui s'est fait tuer en prison par les gens qu'il avait mis lui-même en prison. Et donc, il y a cet acteur qui est quand même assez impressionnant, Robert Zdar, qui, je crois, est mort il n'y a pas si longtemps que ça, qui était atteint de chirubisme. Donc, il avait un visage assez particulier, une grosse mâchoire très proéminente, et qui lui faisait un faciès très particulier, qui campe justement un personnage de flic assez impressionnant, assez étrange.
Mais c'est vrai qu'on revient aussi sur le fait que le mal est incarné par les flics. Donc il y a quand même chez ce mec-là toujours, limite, ne faites pas confiance à toutes les instances, parce que tout le monde qui va venir dans Maniac se rapprocher de ce fameux flic pour être protégé va en fait s'exposer au pire. Donc est-ce que là-dessus, il n'y a pas, comme tu disais, pour Vigilante, c'est-à-dire qu'il y a des juges pourris, il y a ceci, il y a cela, il y a aussi peut-être une critique féroce de
oui,
ça.
Oui, il y a ça, oui.
Il est prêt à tout, Matt Cordell, hein, quand même. Dans le 2, il utilise même un tueur de stripteaseuse qui a un peu bené pour qu'il l'aide, quoi. Voilà, il est quand même prêt à tout, Matt Cordell. Et dans le 2, d'ailleurs, c'est renforcé. Il s'en prend même aux médias dans le 2. Hein. Ça rigole plus. Ça... C'est vrai que c'est une série ultra spectaculaire, mais on oublie que derrière tout ça, il y a aussi le scénariste Larry Cohen. Qui est un scénariste de série B assez génial, hein, quand même, ouais. Et qui a fait quand même toute une série de films lui-même en tant que réalisateur assez passionnante.
Là, l'administration new-yorkaise, le maire de New York, les hautes instances administratives s'en prennent plein la gueule, vu que, oui. En fait, ils ont désigné Matt Cordell comme sacrifice pour pouvoir se laver les mains de ce qui n'allait pas dans New York, quoi.
Et les scènes en prison qui se passent sous la douche, là, elles sont phénoménales. Là.
Toujours sous une musique de Jay Chataway qui nous refait le coup de la boîte à musique. Et ça marche vachement bien, quoi. Parce que finalement, ce personnage qui nous impressionne vachement, qui est très mystérieux, puis en même temps, avec ce faciès particulier qui a un petit côté de poupin, quoi. Il arrive encore, comme dans Maniac, à nous faire ressentir de l'empathie pour lui, quoi.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial William Lustig.
Thank you.
Après, il y a d'autres films dans sa filmographie qui sont plus mineurs. Hein. Il va y avoir, par exemple, Hit List et Relentless. Alors, je sais que Thomas, toi, tu t'es replongé même dans ces films plus mineurs. Après, il y a Oncle Sam en 97, ou 96, tourné en 96, sorti en 97, que je préfère oublier parce que c'est vraiment pas bon. C'est vraiment mauvais, même si c'est assez jouissif. Toujours sur un scénario de Larry Cohen, avec un sergent de l'armée américaine qui est retrouvé mort au Koweït après un tir ami, comme on dit. Et puis, son corps est rapatrié dans sa ville natale. Et puis, à l'approche de la fête nationale américaine, ben ce fameux Sam Harper, revient d'entre les morts, donc l'oncle Sam, habillé comme le fameux oncle Sam des affiches, pour punir tous ceux qui n'apprécient pas les valeurs de l'Amérique. L'idée est géniale. Le film est un peu loupé, comme je trouve, sont un peu loupés Hit List et Relentless, le Psycho Killer, même s'il brasse des thématiques qui sont vraiment présents dans tous ces films, parce qu'il y a deux trucs. Il y a la vengeance, et puis il aime bien les tueurs, quand même. Hein.
Oui, et il aime bien les tueurs en série. Enfin, dans Hit List, c'est un tueur à gages qui est campé par Lance Henriksen, plus méchant que jamais. Hein. Il tue tout le monde, hein, des femmes, des enfants. Enfin, là, il ne tue pas des enfants. Il s'est un peu assagi, William Lustig. Hein. Et donc, il tue le meilleur ami de Ian Michael Vincent.
Alors là, il ne faut pas le faire chier.
Il ne faut pas le faire chier. Hein. Ouais, là, il tue le meilleur ami de Ian Michael Vincent. Il enlève son fils parce qu'il le prend pour quelqu'un d'autre, en fait. Et il blesse grièvement sa femme. Alors là, Ian Michael Vincent, il va absolument se venger. Il prend la pétoire qu'il avait dans son placard, parce que tout le monde a une pétoire dans son placard aux États-Unis, et il part à la poursuite de Lance Henriksen, et là ça va pas arrêter. C'est complètement invraisemblable. Bon, c'est écrit un peu à la truelle, mais ça fonctionne du tonnerre parce qu'il y a cette énergie dans la mise en scène de Lustig qui fait que le film est quand même assez prenant. Et puis finalement, c'est une série B. On va pas se dire, oh ben là quand même, il peut pas faire ça. Oh ben non, hein. Non, c'est un film, un pur film d'action. Mais encore ce truc sur la vengeance, et aussi cette critique des instances administratives, là, un peu de la justice, un petit peu, et du FBI qui dépeint un peu comme des gros beaufs. Sinon, moi je défendrais quand même un peu plus Uncle Sam, que j'ai revu aussi. Effectivement, le film est un peu loupé. On sent que, comme dans Hit List, hein, il n'a plus les budgets, puis il n'arrive plus à faire des films aussi carrés que Vigilante ou Maniac. Mais il y a quand même ce discours où, quand même assez méchant, anti-militariste, où il montre que les États-Unis envoient quand même leurs jeunes au casse-pipe pour des raisons qui restent assez floues, dont on a un peu rien à foutre.
Mais même dans son film le plus mauvais, hein, qui est Relentless, Psycho Killer, qui est, là pour le coup, qui est son film vraiment le plus mauvais. Hein. Le tueur, c'est quand même aussi un fils de flic, quoi. Donc il y a toujours un petit côté, il y a toujours un côté, comment dire, critique du pouvoir, critique des représentants de l'ordre et tout ça, qui va l'habiter durant toute sa carrière. Moi, ce que je vous propose peut-être, c'est d'écouter quelques mots de William Lustig. William Lustig qui était venu animer une masterclass à l'occasion de sa présidence du Festival européen de films fantastiques de Strasbourg. Et donc, on va écouter tout de suite quelques mots de William Lustig au micro de Culture Prohibée.
In the 70s, especially the early 70s, there was a gold rush in the world of 35mm adult movies. For very little money, you could make a fortune. And so there was a lot of opportunity to work on productions, adult productions in New York, where I learned the physicality of making a movie, how to operate a camera, sound equipment, editing equipment. All of that gave me the opportunity to learn the craft. So when I made my first adult movie, I was 21 years old. I was too young to go see it, but I made it. I knew the craft. I knew how to put things together. And so that was my real... I did go to NYU briefly, New York University, briefly. But it was really that period of my life that I learned the most.
Et bien, au début des années 70, c'était vraiment l'âge d'or du film pornographique. Et on pouvait vraiment se faire beaucoup d'argent avec ces films-là. Donc il y avait énormément de possibilités pour travailler sur les tournages. Et c'est là vraiment que j'ai fait mes premières armes à New York, que j'ai appris un peu à opérer toutes les machines. Vraiment ce côté technique que j'ai pu apprendre sur les plateaux. Ça allait de la caméra au montage, ou même à la prise de son, au travail sur le son. Donc j'y ai vraiment fait mes armes. Et j'ai réalisé mon premier film X quand j'avais 21 ans. J'étais trop jeune pour aller le voir, mais je l'ai fait quand même. Et je l'ai fait. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Certes, j'ai fait une brève incursion à NYU, l'université américaine, mais pas vraiment longtemps. C'est surtout cette expérience de terrain qui m'a permis de connaître ce monde-là.
I think the experience of the adult film to Maniac was that it was important to me. We had very little money to make Maniac, $48,000 to make the movie, and I wanted to deliver to the audience a very strong horror film that would make it different from the other films that that were out at that time. And that was my goal, was to really push it. And I think it probably came a little bit from my experience with adult, but with Maniac, that's what I did.
Eh bien, le film Maniac, je l'ai réalisé avec un budget de $48,000. Et mon objectif, c'était vraiment de donner au public ce qu'il attendait. Mais j'avais en tête, en fait, de réaliser un film d'horreur extrêmement fort qui se démarquerait de tout ce qui avait pu être fait avant dans le genre. Donc c'était vraiment en effet mon but de repousser un peu les limites. Donc sûrement quelque chose qui me vient un peu de mon expérience dans les films pornographiques.
The idea for Maniac actually came from a friend of mine. We were driving in a car and he looked at me and said, "What do you think of a movie that's Jaws on land?" Now, I know you probably can't see the connection, but that inspired the idea that I would have a human Jaws. I'd have the shark in Jaws who is preying on the people of New York City. And that was the beginning of it. Of course, it changed a lot, but that was the simple underlying idea of the movie.
En fait, l'idée m'est venue d'un ami. On était ensemble en voiture. Il s'est tourné vers moi. Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de faire les dents de la mer, mais les dents de la terre, en fait ?» Et vous ne voyez peut-être pas le lien, mais en fait, c'est l'idée qui nous a inspirés au début. Avoir un homme qui serait comme le requin dans le film, un véritable prédateur qui chasserait les habitants de New York. C'est comme ça que ça a commencé. Évidemment, l'idée a évolué, mais au départ, l'idée, c'était ça.
I don't really see these kinds of revenge films being made today. I mean, you have films like Taken, but they're not really these urban revenge films. That was a big genre back in the 70s, 80s. My film Vigilante was inspired a lot by more than Death Wish, which would seem the obvious. More than Death Wish, it was inspired by the Italian movies that were inspired by Death Wish, Dirty Harry, The French Connection. That's really was the inspiration in my style and thinking with Vigilante. The funny part is when Vigilante was released in Europe, it was a very it was a big success in most countries, especially Italy, UK, but Italy in particular, it was a big success. So the very people, Enzo Castellari, who inspired Vigilante, they released a movie that he made as Vigilante 2. So it was full circle.
Vous écoutez William Lustig au micro de Culture Prohibée.
Eh ben, en fait, je ne sais pas vraiment si on fait tout simplement ces mêmes films de vengeance aujourd'hui. Oui, il y a des films comme Taken, mais des films de vengeance qui ont lieu dans ces décors très urbains, comme on le faisait dans les années 70-80, je pense peut-être que ça n'existe plus vraiment. Et c'est drôle parce que finalement... On peut dire que la boucle est bouclée parce que Vigilante s'est inspiré plus que Death Wish, qui était
un justicier
dans la ville, c'est ça, merci. Il s'est aussi inspiré de films comme L'Inspecteur Harry, French Connection, et notamment pour le style. Et ensuite, c'est drôle parce que lorsque le film est sorti en Europe, il a rencontré un assez grand succès en Italie, au Royaume-Uni. Et des gens comme Enzo Castellari, qui était à l'origine de mon inspiration pour ce film, a fini par faire Vigilante 2. Donc la boucle était bouclée.
I was at a career low, and Larry Cohen was in New York. He had just been fired from a movie. And I was packing my apartment up in New York to move to Los Angeles. This was in 1987. And we had lunch, and at the lunch, Larry asked me why I never made a sequel to Maniac. And I told him I didn't think it could be sequelized, and I even said I don't think it could be remade. Of course, I was wrong, but there was a series of movies: RoboCop, Beverly Hills Cop. A lot of movies with "cop" in the title. So he said, "What about Maniac Cop?" Genius. So now I'm all excited, and. We then talked further, and we come up with the line, "You have the right to remain silent forever." And I said, "Larry, we have a movie. We have a movie, but no script." Then I ordered artwork. We commissioned artwork to make a poster, this was in February of 87. In March is the famous St. Patrick's Day parade. Again, I have no script, except that I asked Larry to write some pages. Sam Raimi was in New York waiting for financing for the movie Darkman. And Bruce Campbell was in Los Angeles. I call up Bruce. I say, "Bruce, I want you to star in a movie I'm doing called Maniac Cop. I don't have a script, but can I get you on a plane to New York? Oh, and by the way, bring clothes that we could duplicate later." I call up, I then speak to Sam, who I say, "Sam, I need you to play a news reporter." And Sam loves being in movies. So... now we shoot some scenes for a movie that we have no script. Shoot scenes with Bruce, and we shoot scenes with Sam, and we have no script. So Larry then, in 3 weeks, writes the script for Maniac Cop.
Donc l'histoire de Maniac Cop, j'étais à un moment où j'étais un peu désespérée dans ma carrière, un de ces bas qu'on connaît, et Larry Cohen, lui, était à New York parce qu'il venait de se faire virer d'un film. Donc moi, je préparais ma valise pour Los Angeles, en fait, et on était en 1987 et je m'étais dit que j'allais déménager. Et nous voilà tous les deux à un déjeuner et Larry me dit « Mais pourquoi tu n'as jamais pensé à faire la suite de Maniac ?» Et je lui ai dit que j'avais pas l'impression que ça s'y prêtait, ni une suite, ni un remake. Ah, j'avais tort puisque on l'a refait. Et donc à l'époque, en termes de films, il y avait tous ces films de flics, la RoboCop. Et donc Larry m'a dit, mais pourquoi pas Maniac Cop ? Et là, je me suis dit, c'est du génie. J'étais toute excitée, donc on a continué à en parler. Et puis on est arrivé à cette phrase, vous avez le droit de garder le silence pour toujours. Et on s'est dit, mais c'est génial, on en fait un film. Larry était tout emballé, comme moi, mais on n'avait pas de scénario. Alors, on est parti de cette idée-là. Ensuite, j'ai commandé une affiche. Ça, c'était février 87. Et puis, en mars, a lieu la parade annuelle de Saint-Patrick. En fait, c'est des policiers qui défilent. Donc, on n'avait toujours rien pour le film à part ces idées, cette affiche. Et j'ai appelé Sam Raimi, qui, à l'époque, était à New York parce qu'il essayait de réunir de la somme pour tourner Darkman. J'ai aussi appelé Bruce Campbell. Et je lui ai dit, viens, donc on n'avait toujours pas de scénario, ramène-toi et prends des habits en double, quoi, qu'on pourra ensuite reproduire. Et donc Sam est arrivé et je lui ai dit, je veux que tu joues le reporter de cette parade de Saint-Patrick, de ce défilé Saint-Patrick. Donc on est arrivé au défilé, on a tourné des scènes avec Bruce et avec Sam avec ce défilé-là. Et en 3 semaines, Larry s'est occupé d'écrire un scénario. Donc les choses se faisaient petit à petit.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée par John Ferret, dit l'homme mystère, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.